Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis. Chers amis, une émission aujourd'hui intitulée « L'Église orthodoxe en Bulgarie du XIIIe au XVe siècle » et ce, dans le sillage d'un colloque qui a eu lieu cet été à Sofia sur ce sujet. Pour en parler, nous recevons Marie-Hélène Blanchet, byzantiniste, chargée de recherche au CNRS et co-organisatrice du colloque de Sofia. Marie-Hélène Blanchet, pour commencer, quelques mots sur l'organisation de ce colloque qui est le résultat d'une collaboration franco-bulgare.
Tout à fait, c'est une collaboration que nous avons commencé à mettre en place entre le Centre Cyrilo-Méthodien de l'Académie des sciences de Bulgarie, dirigé par Slavia Barlieva, et le laboratoire auquel j'appartiens, Orient Méditerranée. Et ce colloque a été organisé donc les 12 et 13 juillet derniers, grâce aussi à l'aide de l'Institut français de Sofia, et organisé donc par deux collègues qui travaillent au Centre Cyrilo-Méthodien, Marco Scarpa et Stiliana Batalova.
Alors évidemment, ce serait trop long de d'énumérer toutes les communications qui ont eu lieu à ce colloque. On va attendre les actes parce que l'Église en Bulgarie est un sujet qui nous a très peu occupés jusqu'à présent, faute de documents parfois ou de livres sur la question. Et donc aujourd'hui, il faut en profiter. On va commencer par commenter le titre de ce colloque, « Floraison de l'Église orthodoxe en Bulgarie du XIIIe au XVe siècle ». Pourquoi floraison ?
Floraison religieuse, nous avons intitulé le colloque ainsi, parce que c'est une période où on voit se développer un art religieux très important, très poussé, avec la fondation de monastères, avec des manuscrits enluminés. On voit des textes de spiritualité qui sont rédigés en slavon directement et aussi beaucoup d'autres qui sont traduits du grec, puisque il faut bien dire que cette zone, la Bulgarie médiévale, est très liée à l'Empire byzantin. Et donc c'est dans cette mesure aussi que, en tant que byzantiniste, je m'intéresse à ces régions et aux Balkans en général et donc à la Bulgarie plus spécifiquement.
Nous sommes donc dans la sphère de la culture byzantine. Plutôt,
c'est la culture byzantine et donc à cette période, au XIIIe, XIVe siècle surtout, il y a le développement de l'hésychasme dans les monastères bulgares en particulier. Donc c'est le renouveau en fait d'un ascétisme très traditionnel dans le monde byzantin, dans le monde orthodoxe, et qui renaît avec en plus des techniques de prière particulières qui sont redécouvertes en fait. On aura l'occasion, je pense, d'en parler un petit peu tout à l'heure. Donc c'est un rayonnement qui part de Bulgarie, ce qui est assez méconnu en fait jusqu'à présent.
Merci. Alors peut-être un petit topo historique sur l'État bulgare, parce qu'évidemment, la politique intervient de manière toujours très présente dans ces affaires-là.
Donc on a choisi cette délimitation chronologique, XIIIe, XVe siècle, mais en fait c'est surtout XIIIe, XIVe, puisque le Second Empire bulgare occupe à peu près ce créneau chronologique. Donc je parle de Second Empire bulgare puisqu'il y en avait eu un premier. Le premier empire bulgare avait été fondé par Asparouk, le Khan Asparouk, vers 680, qui était un païen. Et on parle donc d'un premier empire bulgare chrétien à partir de la conversion du Khan Boris, qui a pris le nom de Michel, le nom de l'empereur byzantin Michel, qui était son parrain. Et à partir de là, donc de 864 jusqu'à 1018, on a eu un premier empire florissant en Bulgarie et donc orthodoxe. Puis cet empire donc s'est effondré, a été reconquis par les Byzantins. Et en 1185, trois frères, les frères Hassène, se révoltent contre la domination byzantine et arrive à fonder une petite principauté qui va se développer petit à petit. Donc c'est le début de ce Second Empire bulgare qui dure donc les dates habituelles qu'on donne sont de 1185 à 1396, qui est la chute de cet empire. Mais du point de vue culturel, l'influence se poursuit tout de même encore au XVe siècle. Donc on parle à proprement parler d'empire à partir de l'année 1235, puisque c'est le moment où un traité a été passé entre celui qui devient donc le tsar bulgare, il s'agit de Ivan Hassène II, à cette date-là, et l'empereur byzantin, Alors, c'est pas tout à fait, c'est l'empereur de Nicée en fait, puisque c'est l'époque où l'empire byzantin a été conquis par les croisés de la quatrième croisade et où à Constantinople il y a un empire latin de Constantinople.
Qui a duré donc de 1204 à 1261.
Voilà. Et donc, pendant cette période, il y a plusieurs prétendants au trône byzantin, et dont un empire de Nicée, et qui, en 1235, est dirigé par Jean III Vatatzès. Et donc, c'est un traité passé entre Jean III Vatatzès et Ivan II Asen, qui permet donc la reconnaissance du titre de tsar, qui est l'équivalent d'empereur, de vassilos en grec, tsar en slavon, et qui permet aussi la création d'un patriarcat autocéphale à Tarnovo, qui est la capitale de cet empire bulgare. Ça correspond à la ville de Veliko Tarnovo aujourd'hui. Donc on a la collaboration très étroite entre ces deux pouvoirs, le pouvoir politique de l'empereur et l'église autocéphale bulgare, qui donc est à le rang de patriarcat, donc avec une indépendance à peu près totale vis-à-vis du patriarcat de Constantinople.
Alors évidemment, le terme autocéphale est un terme assez compliqué et puis son sens a changé le long des siècles. Il faut peut-être comprendre quelque chose comme une autonomie très très marquée à cette époque-là.
En fait, autocéphale, c'est vraiment ce qui définit une église autocéphale à cette période, c'est que l'élection du primat se fait par le synode lui-même. C'est-à-dire, donc, c'est le synode des évêques à Tarnovo qui élit son chef. Donc le chef de l'église, alors qui élit son chef, et ça doit évidemment être approuvé par l'empereur bulgare, et non pas l'empereur byzantin. Il n'empêche qu'on voit dans des sources que la relation avec Constantinople se maintient quand même. Évidemment, la communion ecclésiastique et spirituelle est maintenue, ça c'est tout à fait indispensable pour qu'on puisse parler d'une orthodoxie dans toutes ces églises. Et on a un texte en fait un peu plus tardif du XIVe siècle, parce que le texte qui a sanctionné la création de cette église autocéphale n'est pas conservé. Donc le texte qu'on a est un peu plus tardif, c'est un acte patriarcal de Callistos dans les années 1360, qui nous explique que, d'après lui, le patriarche de Tarnovo, donc le patriarche autocéphale bulgare, doit continuer à commémorer dans la liturgie le patriarche de Constantinople. Donc ce serait le signe d'une reconnaissance symbolique de l'autorité de l'ancien patriarcat qui est celui de Constantinople.
Très bien. Et puis un point aussi sur cette création d'une église autonome, autocéphale, comme on veut, au moment où il y a justement un empire, c'est-à-dire, et un tsar aussi, un empereur. C'est un peu le modèle byzantin qui est repris ici de la symphonie entre l'État et l'Église.
C'est la symphonie entre l'État et l'Église, et ça a de grandes répercussions sur l'histoire religieuse et culturelle de cette période, puisque l'empereur a une très forte influence, et ce que l'empereur promeut comme initiative donc religieuse, on va parler de la fondation de monastères, c'est ce qui se fait, c'est-à-dire que c'est l'empereur qui donne vraiment les initiatives, les impulsions les plus importantes, et c'est lui, qui, en particulier donc l'empereur Ivan Alexandre, qui est le grand empereur du XIVe siècle, à partir de 1330, de ce second empire bulgare. Et lui a une influence très poussée, en fait, dans toute cette vie culturelle et religieuse de la Bulgarie de cette période.
Alors, nous allons maintenant plonger vraiment dans la vie religieuse en Bulgarie, en allant dans un haut lieu de l'orthodoxie d'expression bulgare. C'est le monastère de Rila, qui a été fondé au Xe siècle par Saint Jean de Rila. Et c'est un extrait du psaume 135, connu comme Polyéleos. Sur ce fond donc du psaume 135, chanté par les moines du monastère de Rila en Bulgarie, Nous revenons à notre discussion avec Marie-Hélène Blanchet sur l'Église orthodoxe en Bulgarie du XIIIe au XVe siècle. Alors maintenant, c'est vraiment l'Église. Hein. C'est d'abord, quand on parle de renouveau, est-ce que cela concerne la hiérarchie, l'Église officielle, je dirais, ou le monachisme? Enfin, on est toujours dans l'Église, bien sûr. Oui.
On a peu d'informations sur la hiérarchie ecclésiastique elle-même, sinon donc le fait que le patriarche était installé à Tarnovo, avec une église patriarcale. La liturgie était en slavon, donc ça c'est évidemment une grande différence avec Constantinople, où la liturgie continue à être en grec, et c'est une des marques justement de cette autocéphalie, de cette indépendance. Mais le renouveau dont on parle vient plutôt des monastères, et on a en particulier donc un premier monastère qui est fondé par Grégoire le Sinaïte en Bulgarie, à Paroria, qui va avoir une influence très importante. Alors quand on pense à l'hésychasme, en général on pense à Palamas d'abord, à Grégoire Palamas.
Qui est un saint, hein, et qui est déjà reconnu comme saint au XIVe siècle, très peu de temps après sa mort, qui est le grand nom, oui, de l'hésychasme. Donc, on va situer Palamas à peu près, ses œuvres, au milieu du XIVe siècle, pour simplifier.
Voilà. Ah bon. Et Grégoire le Sinaïte est aussi un moine byzantin, mais qui a vécu une vingtaine d'années avant Grégoire Palamas.
Et c'est un... Et qui a beaucoup voyagé, hein, parce Alors, qu'il vient d'Asie mineure.
Il est né en Asie mineure. Il est allé ensuite, comme son nom l'indique, au Sinaï, puisque donc c'est là qu'il a acquis son titre de Grégoire le Sinaïte. Et il est passé par la Tosse plusieurs fois. Et aussi par la Crète. Et alors, c'est en Crète qu'il aurait rencontré, que des biographes en fait nous racontent, hein, dans sa vie, qu'il a rencontré un père spirituel qui lui a appris des techniques de prière particulières. Il était déjà un moine ascétique avec toute l'expérience spirituelle qui va avec. Mais il aurait appris donc des techniques de prière particulières liées à la respiration, à la position du corps. Et il est arrivé à la Tosse ensuite, donc vers le tout début du XIVe siècle, et il s'est étonné qu'aucun moine ne pratique la prière de cette manière. Il a trouvé seulement quelques très vieux moines dans une petite skite de Magoula, sur la Tosse, où on avait encore ce type de pratique. Et lui les a développés. Il a commencé à avoir quelques disciples sur le mont Athos, autour de lui. Puis, à cause de la période troublée qui est le début du XIVe siècle dans cette zone, il y a des attaques de pirates, nous racontent les textes, peut-être des attaques turques aussi. Il est parti précisément du côté de la mer Noire. Il est allé, on pense, du côté de Sozopol. Et s'est enfoncé, puisque donc il cherchait un coin reculé avec ses disciples pour pouvoir être loin du monde, dans une forme d'érémitisme, hein, pratiquement. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est installé à Paroria. Donc Paroria, on ne sait pas le localiser aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est on sait que ça a été le siège, le lieu d'installation de ce monastère qui, dans une première phase, était très peu développé, c'est-à-dire quelques skites à nouveau d'ermites, et qui, dans une deuxième phase ensuite, l'installation définitive de Grégoire le Sinaïte à cet endroit, à partir de 1331-32, jusqu'à sa mort en 1346, est devenu un monastère tout à fait florissant, avec des constructions de cellules, un catholicone, donc une église, et des terres autour, toute une infrastructure pour que les moines puissent vivre de manière autonome à cet endroit. Donc toute cette installation a disparu. Et plusieurs archéologues ont essayé de retrouver la localisation de Paroria, mais il y a une dizaine d'hypothèses. On sait que c'était donc vers l'intérieur, dans la région de la Stranja, qui est la région du sud-est de la Bulgarie, pratiquement à la frontière avec la Grèce, donc dans les montagnes. Puisque donc il cherchait cet éloignement et dans un endroit qui est réputé être très froid. Donc on voit à peu près, on peut localiser la région où était installé ce monastère, mais on ne sait pas exactement le lieu. On n'a pas retrouvé les traces.
Je dirais, ce qui nous intéresse plus ici, c'est le message et puis cette manière qu'a Grégoire de le Sinaïte, donc comment dire, de formaliser la manière dont la prière doit être pratiquée, comme une sorte de pédagogie comme ça. Hein, c'est bon. Alors la posture du corps dans la prière est une chose qui existe depuis les temps bibliques. Hein, on a ça, c'est pas et c'est très répandu même dans d'autres religions, etc. C'est pas quelque chose de en soi de nouveau. Mais évidemment, le christianisme lui donne les icasmes, un sens tout à fait particulier, en insistant sur le fait que comme ça, le chrétien va être aidé à rentrer dans la lumière divine. Hein.
C'est déjà chez Grégoire, effectivement, cette recherche d'une part d'illumination et de divinisation, bien sûr. Il a écrit des textes qui sont dans la lignée, des textes des Pères du désert, de tout ce qui est lié à la philokalie. C'est un disciple de toute cette tradition spirituelle qui sera ensuite alors développé et formalisé, y compris du point de vue théologique, par Palamas. Grégoire le Sinaïte n'a pas laissé de texte théologique, mais il a laissé, par contre, une réinterprétation du pseudo-Denis, qui est aussi très intéressante, où on voit justement toute l'analyse symbolique en fait qu'il fait de, par exemple, de l'habit du moine, des différentes étapes par lesquelles doit passer le moine, donc de l'obéissance et pour s'élever et se rapprocher de ce qui correspond en fait à la hiérarchie angélique chez le pseudo-Denis, c'est-à-dire la figure de l'ange, du séraphin. Voilà, donc c'est toute cette spiritualité très présente qui, dans une certaine mesure, n'est pas forcément très liée justement au clerc, c'est-à-dire à la liturgie et au sacrement, qui rejoint tout de même, enfin les deux branches se rejoignent malgré tout. Donc dans ce monastère, Grégoire rassemble des disciples et il faut souligner que ce sont des disciples de plusieurs origines et de plusieurs langues. On a des Bulgares et d'ailleurs ses œuvres sont très rapidement traduites en slavon, donc en moyen bulgare pour cette période, on parle du moyen bulgare. Il y a d'autres disciples grecs, byzantins, dont certains deviendront des patriarches. Je parlais de Callistos, c'est un des disciples de Grégoire le Sinaïte. Et Valak aussi, donc des pays roumains. Donc c'est une internationale, en fait, donc le terme est tout à fait anachronique, bien sûr, hein, mais c'est un milieu très polyglotte et très mélangé, du point de vue du recrutement, qui se retrouve donc dans ce monastère de Paroria et qui va devoir l'abandonner assez vite, toujours à cause de l'avancée des Ottomans. Hein. Il faut imaginer que les Ottomans sont quand même en train d'avancer à cette période dans les Balkans. Et donc les disciples de Grégoire vont ensuite essaimer dans différentes zones. Et c'est cette tradition qui pourra de cette manière se transmettre dans tous les Balkans, donc en Serbie dans un deuxième temps, puis dans les pays roumains, donc Valachie, Moldavie, et jusqu'en Russie, par la suite, à la fin du XIVe siècle.
Donc d'abord ce rayonnement, je dirais interculturel peut-être pour les Balkans, on va dire, cette campagne de traduction d'œuvres grecques donc, ce qui est très important parce que ça permet la diffusion évidemment.
Alors d'œuvres grecques anciennes, de cette littérature spirituelle traditionnelle en grec et des œuvres de Grégoire le Sinaïte lui-même.
Puis évidemment l'importance du Moathos à cette époque-là.
L'importance du Moathos bien sûr, puisque justement ce milieu très mélangé d'un monachisme orthodoxe à la fois balkanique et byzantin se retrouve justement au Moathos. Et au Moathos, c'est le lieu où justement donc les moines bulgares sont aussi en contact avec des moines serbes. Et ce sont des Serbes qui traduisent aussi Palamas. Alors là, on est un petit peu plus tard, mais les œuvres de Palamas sont aussi traduites en moyen serbe à cette période. Et ça contribue, ça participe de ce rayonnement de cette spiritualité hésychaste dans l'ensemble des Balkans.
Alors, peut-être un mot sur la langue slavone et ces langues néo-slavones qui sont en train d'être formées à cette époque-là. Hein, on voit qu'il y a des variantes.
Il y a une langue commune qui est le vieux slave, qui est celle qui était parlée au 9e, 10e siècle, à l'époque où Cyrille et Méthode ont inventé l'alphabet. Alors d'abord l'alphabet glagolitique, puis ensuite leurs successeurs ont inventé l'alphabet cyrillique. Et donc ces alphabets ont servi à noter la langue qui était parlée dans ces régions et qui était une langue à peu près commune, et en particulier à traduire donc les textes bibliques, tous les textes sacrés, donc textes aussi de spiritualité et le droit aussi. Il faut, c'est important de signaler les textes de droit canon en particulier. Puis, à cette période où nous sommes là, au XIVe siècle, XIIIe, XIVe siècle, ces langues ont déjà divergé les unes par rapport aux autres. Donc il y a des notes un peu dialectales qui apparaissent. Et donc on parle de moyen bulgare et de moyen serbe, pour ce qui concerne les Balkans.
Pour conclure, il y a vraiment une floraison. Et la floraison de l'église religieuse, je ne sais pas comment vous voulez, en tout cas, elle est essentiellement hésychaste, hein, c'est ça?
Elle est hésychaste, elle repose sur les monastères, sur le rayonnement des monastères.
Voilà, et nous sommes donc dans la continuité de l'ascétique, on dirait chrétienne, qui remonte très, très loin dans le temps, hein, bien sûr. Pensez aussi que la prière est toujours liée à la pénitence et au deuil. Donc, la posture du corps, justement, qui est importante dans l'hésychasme, en tout cas comme moyen de pédagogie, elle aussi rappelle la pénitence du chrétien. Et c'est une chose fondamentale. Alors, qu'est-ce qui reste comme œuvre de Grégoire?
On peut lire les chapitres spirituels. Mais alors, ils ont été traduits en italien. On a très peu on n'a pas beaucoup de traductions françaises de ces textes-là. C'est en particulier Antonio Rigo qui, dans un livre Mystici Byzantini, a recueilli, a rassemblé beaucoup de traductions de ce type de texte, et y compris de textes traduits du slave. Et ensuite, il y a des successeurs à Grégoire le Sinaïte, donc Théodose de Tarnovo, puis Eutyme de Tarnovo. Et Eutyme de Tarnovo est une grande figure intellectuelle de la fin du XIVe siècle, juste avant la chute de l'Empire, du Second Empire bulgare. Donc le patriarcat de Tarnovo tombe en 1393, et c'est Eutyme de Tarnovo qui est le patriarche. Il a été à l'origine d'une réforme linguistique importante, et donc lui aussi a laissé des œuvres très importantes dans la droite ligne de cette spiritualité monastique. Donc
on voit bien donc qu'en Bulgarie, l'hésychasme est bien ancré là.
Il est bien ancré, mais la conquête ottomane porte un coup d'arrêt malgré tout.
Bien sûr.
À cet élan.
Écoutez, on attend avec impatience les actes de ce colloque. Merci beaucoup donc. C'était l'Église orthodoxe en Bulgarie du XIIIe au XVe siècle avec Marie-Hélène Blanchet. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Chrysostalis. Chargée de réalisation, Anne Pérez. Prise de son, Philippe Mercher. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Et voici maintenant le service protestant.